I'm not saying there won't be a little pain, but the market's gone up 40%, 42%, so we might lose a little bit of it. But we're going to have a much stronger country when we're finished, and that's what I'm all about.
Alors, il aurait fallu que Donald Trump fasse sa déclaration après la fermeture des marchés cet après-midi à New York. D'ailleurs, hier soir, j'ai envoyé un courriel à Raphaël Jacob en disant sa déclaration hier, intempestive, en disant « je peux monter à 100 milliards contre la Chine, les tarifs douaniers ». Et j'ai dit à Raphaël « tu regarderas l'indice Dow Jones aujourd'hui ». Eh bien, il a plongé de 2 et 3 dixièmes %.
Pouvait pas vraiment s'y surprendre, hein, Paul, parce que évidemment, comme tu viens de le mentionner, là, on parlait d'une sortie assez intempestive et assez improvisée, merci aussi Donald Trump. Récapitulons d'abord et avant tout ce qui s'est passé dans l'espèce de saga commerciale avec la Chine. Vraiment, la salve de départ, là, ce qui a donné lieu à tout le reste, à tout ce qui a suivi, ça a été l'annonce, la fameuse annonce, assez improvisée aussi, soit dit en passant, sur l'acier et l'aluminium. Évidemment, ici, on en avait parlé beaucoup, beaucoup de l'angle canadien quand ça avait été abordé la première fois. Mais les cibles premières de Donald Trump, lorsqu'on avait annoncé cette première ronde de sanctions-là, de tarifs-là, c'était justement des pays contre la Chine, comme la Chine. Donc, on avait annoncé un tarif de 25 % sur l'acier, 10 % sur l'aluminium pour les importations chinoises. Suite à ça, avant même que la Chine ait rétorqué, Donald Trump en avait rajouté en y allant de sa promesse d'imposer des tarifs d'une valeur d'à peu près 50 milliards sur une centaine de produits chinois. Après ça, là, les Chinois ont répliqué en deux temps. Dans un premier temps, ils sont allés d'une première vague d'annonces de tarifs douaniers sur des produits peut-être un peu moins sensibles à provenance américaine, notamment certains fruits, certains vins. Et là où ça a commencé à faire mal, c'est lorsqu'ils ont ajouté à ça une espèce de deuxième vague il y a quelques heures, en fait, il y a quelques jours maintenant, cette semaine, qui incluait le soya, le tabac, le whisky, les automobiles. Pourquoi? Parce que ce sont tous des produits qui ont des valeurs non seulement économiques et financières, mais aussi politiques qui peuvent faire mal au président américain et à son parti. Et c'est suite à ça que là, Donald Trump, hier soir, et encore une fois, de façon vraiment imprévisible, est sorti en disant, bien, écoutez, si vous n'êtes pas content, si vous voulez en rajouter, moi, je suis prêt à monter à 100 milliards de plus. Pas 100 milliards au total, 100 milliards de plus en tarifs qu'on additionne aux tarifs sur l'acier et l'aluminium et aux 50 milliards additionnels. Là, on parle de tensions qui sont quand même assez vives.
Il y a même un politicien de son clan, c'est-à-dire des Républicains, qui a dit en début de soirée, il est fou. Oui, he's nuts.
Exact.
Hein, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens de faire une déclaration semblable.
Un sénateur du Nebraska, une étoile montante, en fait, du Parti républicain, qui a dit, c'est de la folie pure. Et ce qui est remarquable là-dedans, Paul, c'est que la Maison-Blanche semble faire de la politique, faire en fait des politiques publiques en temps réel. C'est-à-dire que le président lance des missives comme ça, alors qu'à peu près personne dans son équipe est vraiment au courant de la ligne directrice de la Maison-Blanche. Donc, on est dans l'improvision quasi totale.
Est-ce que c'est improvisé aujourd'hui de confirmer l'imposition de nouvelles sanctions contre la Russie?
Non, ça non. Et ça, quand tu parles de pression au sein du parti de Donald Trump, ça, c'en est un bel exemple. Et là-dessus, c'est le président qui a suivi son parti et ce n'est pas le parti qui a suivi le président. Énormément de pression, oui, des démocrates du Congrès, mais aussi des républicains pour qu'on durcisse le ton face à Moscou. Et là, ça a été fait de façon assez marquée, il faut le dire. Et c'est assez remarquable, soit dit en passant, qu'il y ait aussi peu d'attention médiatique qui soit donnée à ça aujourd'hui, parce qu'on parle en fait des sanctions économiques et diplomatiques les plus importantes qui ont été adoptées par les États-Unis face à Moscou depuis des années, certainement depuis le début de l'administration Trump. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de sanctions qui ciblent 7 oligarques russes, 17 hauts placés du gouvernement russe et 12 compagnies qui appartiennent justement à certains de ces oligarques-là.
Dont un est parent avec Vladimir Poutine. Je pense que c'est son neveu.
Exactement. Et donc, on se rapproche de plus en plus de la garde rapprochée de Vladimir Poutine. Ce n'est pas seulement des sanctions obscures qui visent des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour le Kremlin. Là, ça commence vraiment à se rapprocher justement du cœur du Kremlin. Donc, c'est un message très fort qui est envoyé par l'administration Trump comme quoi, même si Donald Trump aimerait avoir de meilleurs liens avec le pays, c'est pas nécessairement tout au niveau du comportement russe qui va être toléré par Washington.
Alors, probablement, Raphaël, que si on en a aussi peu parlé, et c'est si important que tu nous en parles, c'est parce qu'on parle toujours de Stormy Daniels. Elle a un avocat flamboyant qui s'appelle Michael Avenatti. Il est sur toutes les tribunes. Il réagit à chaque déclaration qui est faite autour de Trump. Et pour la première fois hier, Donald Trump a fait référence à Stormy Daniels en disant « Je lui ai jamais donné 130 000 $
Sans nier pourtant, Paul, qu'il y avait eu un versement ou plus une relation.
Il a dit « lui » a
ouais,
pas
lui,
versé.
Exactement, et qu'il n'était pas au courant. Mais sais-tu quoi? Tu parles de son avocat. Je vais te parler, je vais même te faire écouter un extrait d'une entrevue qu'il a donnée à la journaliste Megyn Kelly un petit peu plus tôt cette semaine. On conclut la semaine avec ça parce qu'écoute, l'avocat en question, qui est extraordinairement doué, pour la première fois, s'est vraiment cassé les dents dans une entrevue. On en écoute un extrait.
Why would Stormy Daniels be leading the charge on whether that payment violated the election law?
Because, and I mean, this is the honest to God truth. This is a principled woman at this point. She wants the truth. She wants the truth.
Now they're laughing at you.
No, but you know what? They may
come on, they're saying. Come on. She's so principled that 11 days before the election, she had information about the possible next president having an extramarital affair with an adult film actress, and she shut up about it in exchange for just over $100,000.
Megyn Kelly a coincé. Vraiment Michael Avenatti, vous avez entendu d'ailleurs bafouiller. Et grosso modo, on peut résumer ce qui étaient les intentions peut-être de Mme Stormy Daniels.
Ben écoute, c'est parce que le point qui est avancé par...
De respecter les règles électorales.
Exactement, de l'avocat de Stormy Daniels, c'est que la raison pour laquelle elle sort publiquement, c'est parce que c'est une femme de principe. C'est une femme qui veut qu'on connaisse, que le grand public connaisse la vérité.
Et Megyn Kelly a dit, regardez le public qui rit, là, elle dit, moi aussi je ris.
Et je peux te le dire, Paul, pour avoir écouté le segment là, à la télévision, on les voyait, les gens dans l'audience, rire, parce que c'était tellement justement risible de prétendre pour un instant, de façon sérieuse, que Stormy Daniels faisait ça pour une question de principe et d'intégrité.
Mais écoutons, peut-être.
Voyons.
Non, mais peut-être. En fait, on ne sait pas.
Paul, tu as un faible pour elle. C'est ça qui
non,
fait
pas
dire
du tout,
ça.
Pas du tout.
Dis la vérité.
Pas du tout, pas du tout. Et c'est la première fois, vraiment, tu l'as dit, que l'avocat de Mme Daniels, qui semble être un véritable pitbull,
absolument,
se fait coincer.
Donc, un morceau de robot pour Megyn Kelly, qui n'est pas n'importe quel journaliste. On finira là-dessus.
Elle a ébranlé le candidat Trump et le président Trump.
En effet. Donc, c'est quelqu'un, c'est une journaliste spéciale aux États-Unis, surtout dans un contexte aussi polarisé, dans la mesure où elle s'en prend à tout le monde des deux côtés. On en a eu un bel exemple cette semaine.
Travail bien fait. Merci, Raphaël, et bon week-end.
Bon week-end.